milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, l'école à la radio, me voilà de retour après quelques jours de repos. Je sais que vous avez beaucoup appris la semaine dernière avec Ludovic Duneau qui était derrière ce micro et toute l'équipe bien sûr. Aujourd'hui, on commence la semaine avec de la grammaire, prépositions, interjections, à quoi ça peut bien servir dans une phrase. L'enseignante Marie-Christine vous a préparé de petites histoires et des exercices pour que les enfants en école primaire retiennent et comprennent tout ou presque tout. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous avez décidé d'arriver comme ça dès le début de la semaine avec vos gros sabots entre guillemets, hein, c'est-à-dire avec des mots compliqués, prépositions, interjections.
Oui, mais tout le monde va très vite comprendre ce que veulent dire ces mots.
Et alors, voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est pas si compliqué, hein, on va voir plein d'exercices.
Quand on comprend le sens de ces mots, ça facilite ensuite l'utilisation de ces petits mots.
Voilà, et on va comprendre à quoi ils servent dans une phrase, bien sûr. Ensuite, on va pouvoir rêver, bien installé sous un manguier pour écouter un conte gabonais. Kouaki, la pintade et la perdrix. Et en fin d'émission, la chronique de Sylvia Serbin est consacrée à des héroïnes méconnues de l'histoire. Vous découvrirez le destin de la mulâtresse Solitude, résistante à l'esclavage dans les Antilles du 19e siècle. Voilà, l'émission est réalisée, vous le savez, en direct avec une équipe en confinement et en studio. Avec cette semaine, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita et moi-même. Et vos réactions, vos questions sont toujours les bienvenues sur WhatsApp. Le compte WhatsApp, c'est le 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, les enfants ont aussi la parole.
7 milliards de voisins.
On est tout proche.
On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Bonjour Emmanuel, c'est la fleur depuis Brazzaville. J'ai compris les adjectifs qualificatifs. Marie-Christine est magnifique, très magnifique. Magnifique, c'est un adjectif qualificatif.
Bonjour RFI, je me nomme Traoré Bakary Désiré. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon journal de bord. Dans mon salon, il y a une table de couleur marron, noire, doré et argenté. Je vois des mouches voler, une grande télé avec des haut-parleurs, des nounours. Il fait un peu chaud, mais il ventile bien et mon salon est éclairé par la lumière du jour. Dans ma cour, je vois des voitures, la maison des voisins, une case. Au dehors, je vois des arbres et le soleil ne brille pas fort. Le ciel est nuageux et un voisin qui fait sa tôle juste à côté. J'entends le bruit dans mon salon. Merci d'avoir écouté mon journal.
Et merci à toi, Bakary. C'est un bel effort d'écriture. Et d'ailleurs, on reparlera de l'habitat en fin de semaine avec Gérard Sans Faute. Je vous lis quelques messages. Al Pacino, qui est en Guinée, également comme Bakary, qui est à Conakry. Un grand merci à Marie-Christine pour les notions de grammaire de la part de ma petite sœur. L'adjectif se jette sur le nom, l'adverbe sur le verbe et cette remarque très sur les adjectifs qualificatifs. Voilà, c'est bien pour vous, hein, Marie-Christine.
Oui, vous êtes reconnue. Je remercie.
L'adjectif se jette sur le nom parce que ça vient de jectare, c'est ça, du latin qui veut dire jeter, c'est bien ça?
Oui.
Si ma mémoire est bonne.
On va retrouver tout à l'heure.
Exactement. On va retrouver des racines latines parce que c'est bien utile finalement pour comprendre ce que font les mots comme métier dans la vie. Et puis il y a Jules aussi à Yaoundé qui nous a posté ce message, un sentiment nostalgique personnel. En fait, dans mon enfance, nous écrit Jules, entre mes 10 ans et mes 16 ans, RFI et ses différentes émissions étaient la seule compagnie de mes journées. Et après avoir eu mon certificat d'études primaires à l'âge de 10 ans, j'ai passé 6 années à la maison, sans aller à l'école, pour des raisons que les adultes de ma famille ne m'ont pas encore clairement expliquées à ce jour. Je passais donc toutes les journées à la maison, occupée par des travaux ménagers, à écouter RFI et le générique de 7 milliards de voisins. C'était l'un des génériques avec celui de Priorité Santé et de Appel sur l'actualité qui me donnait un peu de gaieté dans le cœur. Je ne repris mes études qu'après mes 16 ans. Première année de collège, de l'enseignement technique, jusqu'à arriver en licence de comptabilité à l'université et l'habitude d'écouter RFI et la nostalgie de votre générique en particulier ne m'a jamais quitté. Voilà, je dors avec le transistor de mon chevet de lit calé sur RFI depuis des années. Merci en tout cas à Jules pour ce message, parce que finalement ça s'adresse à tous ceux qui sont privés d'école en ce moment. Il faut garder le cap, il ne faut jamais renoncer à apprendre, même avec peu de moyens à disposition. Et aujourd'hui, en tout cas, on est tous ensemble pour se jeter dans la forêt de la grammaire avec Marie-Christine. Allez, c'est parti.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
Oui, bah moi la grammaire c'était quand même ma bête noire, hein, autrefois, Marie-Christine. Alors on revient à toujours ces 9 mots de la langue française. On a vu déjà pas mal de types de mots depuis quelques semaines avec vous. Et aujourd'hui donc, les prépositions. Qu'est-ce que c'est qu'une préposition dans le fond, Marie-Christine? À quoi ça sert?
Alors c'est un tout petit mot invariable qui se place devant les noms, les verbes, les adjectifs. Alors ça vient de deux mots latins, pré, qui veut dire devant, et de position, qui veut dire l'endroit, le lieu. Mmh. Donc préposition veut dire placer devant. Hey, c'est moi le problème, tu ne me dépasses pas. Et en plus, t'es prié de rester à plus d'un mètre derrière moi. Il n'est pas question que j'attrape le Covid-19.
C'est ça, ça
qui,
c'est...
La préposition au nom commun, au nom personnel, au nom au verbe, à l'adjectif. Voilà, c'est lui le premier.
Voilà, elle se met devant, on est d'accord.
Alors, c'est un petit mot qui ne change jamais de forme. C'est-à-dire qu'il est invariable, il s'écrit toujours pareil, contrairement au nom commun, au déterminant, au verbe, à l'adjectif, au pronom, qui eux changent en fonction du genre et du nombre. Le genre, c'est masculin ou féminin, ouais. Et le nombre, si on est seul ou plusieurs.
Alors, Marie-Christine, vous avez dit, bon, la préposition, elle est toujours devant. Elle est devant un mot ou un groupe de mots qui complète soit un nom, soit un verbe, soit un adjectif. Elle n'est pas en tout premier dans la phrase, bien sûr, hein,
non,
la préposition.
Non, elle n'est pas du tout en tout premier
voilà,
dans la phrase.
Il ne faut pas qu'on se trompe.
Il ne faut pas qu'on se trompe. Elle est placée devant un mot ou un groupe de mots.
Ouais.
Alors, ça permet de préciser, de donner des précisions à l'action que fait le sujet, que fait la personne, l'animal ou l'objet.
Vous pouvez nous donner un exemple ?
Oui, j'ai entendu que Bakary, dans son journal, avait utilisé énormément de prépositions. Mmh. Alors, si vous le réécoutez, écoutez bien, Bakary, il en a utilisé beaucoup.
Vous les avez comptés ? Non.
Non, je n'ai pas eu le temps de compter. Ceux qui les coteront repéreront à nouveau.
Alors, vous avez prévu quand même quelques exemples à nous donner pour qu'on comprenne bien comment se place la préposition et à quoi elle sert.
Voilà. Alors, la préposition, elle précise le temps.
Oui.
À, après, avant, pendant, depuis. Par exemple, je mange à midi. Après le déjeuner, pendant la récréation, je joue avec la toupie des trois zones climatiques du monde que j'ai fabriquée depuis le 17 avril.
Alors, si on reprend « je mange à midi », « à », c'est une préposition. « Après le déjeuner », « après », encore une préposition. « Pendant la récréation », encore une préposition. « Je joue avec la toupie », aussi une préposition.
Oui. Avec.
Voilà, fabriqué depuis le 17 avril, depuis encore une préposition.
Oui.
Donc on voit bien, c'est pas au début de la phrase, mais ça se situe juste avant un groupe de mots avec la toupie, Depuis quoi le 17 avril ? Après le déjeuner ? On est bien d'accord, hein ?
Voilà. Donc, ça précise aussi le lieu. Dans, sur, sous, vers, chez. Par exemple, cette chèvre me tape sur les nerfs. Elle passe sous le ventre du dromadaire, elle court vers le zébu, elle s'arrête devant la porte de l'enclos, près du karité.
Cette chèvre me tape sur les nerfs, préposition, elle passe sous le ventre, préposition, elle court vers le zébu, préposition, elle s'arrête devant la porte, préposition, de l'enclos, près du karité. Et puis, ça peut indiquer aussi autre chose que le temps ou le lieu, la préposition, hein, Marie-Christine.
Elle peut indiquer la cause.
Oui.
Par, de, à cause de. Par exemple, c'est à cause de cette chèvre que mes parents m'ont puni. C'est de sa faute.
C'est de sa faute. Alors là, on est bien d'accord. Là aussi, c'est une préposition. C'est de sa faute. Oui,
et
allez-y.
À cause de. C'est à cause de cette chèvre.
Voilà. Un message d'Anne Émilie Ludlic est à Port-au-Prince, qui a 9 ans. Elle nous a envoyé un petit message tout exprès pour la leçon des prépositions. Emmanuel est de retour. Elle va être derrière le micro avec Marie-Christine. Et moi, je vais être devant la radio pour écouter l'école à la radio. Alors, ça, c'est les prépositions. C'est les prépositions qu'on a vraiment l'habitude de croiser très souvent.
Voilà,
il y a aussi d'autres types de prépositions. Moi, je ne m'en souvenais plus du tout. Les locutions prépositives.
Ah oui, locution, ça veut dire un mot. Locare, ça veut dire parler. Hein,
oui. En latin.
Voilà. Alors, les locutions prépositives, donc on entend préposition dans prépositive. C'est un groupe de plusieurs mots invariables qui servent à la même chose que la préposition.
Mmh.
Donc, il y en a toute une série. Hein. Et je vais vous donner comme exemple. Mamadou habite à côté de ma maison. En face de ma maison, c'est Aïssa. Autour de nos maisons, il y a la savane. Au-dessus de nos maisons, un baobab étend ses branches. Loin de là, il y a de grands rochers. Donc, à côté d'eux, en face d'eux, autour d'eux, au-dessus d'eux, loin de là, c'est ce qu'on appelle les locutions prépositives.
Ouais, donc, en fait, c'est juste une préposition un peu plus compliquée, hein, un peu plus...
Composée de deux, trois petits mots.
Voilà, deux, trois petits mots. Une petite poésie pour les plus jeunes, puisque vous êtes nombreux, les voisins, les voisines, à nous réclamer aussi des petits textes faciles à retenir pour les plus jeunes.
J'ai perdu mon doudou. Je le cherche partout. À droite, à gauche, en haut, en bas. Ouf, il est là-dessous, mon doudou.
Bon, et alors là-dedans, combien il y a de prépositions ou de locutions prépositives, Marie-Christine ?
Alors, à droite, à gauche, en haut, en bas.
Ça fait 4.
Là-dessous.
Ouais, ça
partout,
fait 5.
5, voilà.
C'est ça. Eh bien, ça fait 4, 5, 6.
Voilà.
Un exercice peut-être pour les plus grands ?
Voilà. Alors, on n'en fait pas un rapide pour la maternelle ?
Oui, allez-y.
Voilà. Alors, pour les maternelles, donc vous faites bien attention, vous répondez à ceux qui vous entourent, la bonne réponse. Hein.
Oui.
Tu mets l'assiette sur ou sous la table ?
Alors, on n'écrit pas forcément la phrase, mais
non,
on peut déjà... Voilà, on peut lever son pouce. Hein. Combien il y a de prépositions là-dedans ? Tu mets l'assiette sur ou sous la table ? Moi, j'ai levé mon pouce déjà 2 fois.
Voilà. Tu joues au ballon dans la maison ou sur le terrain de foot ?
Voilà, là aussi, encore 2 prépositions. On est d'accord, Marie-Christine ?
Voilà.
Dans et sur. Et un exercice pour les plus grands sur les prépositions, un petit peu plus complexe.
Oui, Ils peuvent répondre quelle est la bonne préposition à utiliser.
Oui.
Parce qu'il y en a deux dans chacune des phrases.
Mmh.
Tu dors durant la nuit ou pendant la journée ?
Alors, quelle est la bonne préposition ? Tu dors durant la nuit ou pendant la journée ? A priori, il vaut mieux dormir la nuit. Donc,
durant
la nuit. Une autre question ?
Tu gardes les chèvres autour de la maison ou dans la maison ?
Alors, autour de la maison ou dans la maison. Les deux sont des prépositions de toute façon, hein, Marie-Christine.
Oui, autour d'eux et dans, mais alors il faut choisir la bonne, celle qui est voilà. La bonne réponse.
A priori, on n'a pas les chefs dans la maison, hein, donc autour d'eux.
Voilà. L'avocatier étend ses branches au-dessus de la maison ou dans la maison ?
L'avocatier étend ses branches au-dessus de la maison. Ah, mais il y a un coq à côté de chez vous, Marie-Christine. C'est vrai que vous êtes au village.
Moi, je suis au village, oui.
Oh, cocorico, ça va nous servir, ça, pour la suite de la leçon, hein, pour les interjections.
Oui, il contribue, le coq.
Au-dessus de la maison, voilà. Ça, c'est la bonne réponse. Hein. Il étend ses branches au-dessus de la maison. Et ensuite, alors attendez, le temps presse, Marie-Christine, et je voudrais ensuite qu'on puisse parler des interjections. Vous allez d'ailleurs tendre le téléphone au coq, hein, bien sûr, qui aura la parole dans cette émission. Un message de Dimersia Lubumbashi qui a 15 ans et qui demande quand est-ce qu'il faut employer deux en tant que préposition et deux en tant qu'article. Et c'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit c'est de sa faute. Là, c'est bien une préposition, c'est pas un article. Et pourtant, c'est le même mot, il s'écrit DE.
Voilà, oui, c'est un peu compliqué.
Qu'est-ce qu'on peut lui dire le plus simplement possible ?
Oui, quand c'est l'article indéfini, c'est de là, de le. On peut
une quantité, finalement.
Voilà, de là, de le. C'est parce que c'est une contraction.
Oui, de la crème, par exemple. Hein.
Oui.
Eh bien, merci pour la réponse, pour la question de Dimersia. On passe aux interjections, Marie-Christine.
Salut, aïe, ouille, vlan, cucu, saperlipopette, cocorico, hachoum, crac, boum, hu, hélas, oh, oh, oh. Blanc, hurrah !
Vous êtes sûre que ça va bien, Marie-Christine ? C'est la fin du confinement qui vous met dans cet état-là ?
Non, 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 je ne fais que jeter des mots invariables au milieu de notre conversation.
Exactement, et on vient en plus d'entendre votre coq juste avant, qui lui aussi donc a la parole dans l'émission Cocorico. Et donc, tout ça, ce sont des interjections, c'est bien ça ?
Voilà, c'est un mot qui vient aussi du latin. Inter qui veut dire entre, au milieu, et de jacto, le verbe qui veut dire jeter, c'est le même verbe qui est dans adjectif.
Donc alors là, c'est-à-dire que l'interjection, elle se jette sur quoi ? Au milieu de la phrase, dans la phrase ?
Elle se jette au milieu de notre conversation, elle se jette, voilà, c'est ça, au milieu de notre conversation.
Voilà. Donc, des mots invariables qui se jettent dans la conversation, ça peut, en fait, on a bien vu qu'il y a des interjections qui sont très différentes les unes des autres. Ça peut définir, par exemple, une émotion ?
Oui, ça définit une émotion spontanée. C'est-à-dire que c'est souvent une réaction, hein, l'interjection. Oui. On réagit à
sans réfléchir, en fait. Hein, oui.
Voilà, c'est ça, c'est très spontané.
Ça veut dire on se fait mal, aïe, 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 voilà.
Voilà, la douleur, la surprise... L'étonnement, ça alors, l'agacement, flûte, le dégoût, berk, une sensation, ouille, la joie, merci, la colère, zut. C'est une série, enfin, c'est pas exclusif, hein, y en a encore plein d'autres.
Ah oui, il y en a plein d'autres, qu'on retrouve dans les bandes dessinées aussi. Et ça peut être aussi un message très contracté, très, très utile, très, très efficace.
Oui, c'est un message à une autre personne. Donc, quand je dis oui, ça veut dire que je suis d'accord, que j'acquiesce. Quand je dis non, c'est que je ne veux pas, je ne suis pas d'accord.
Donc oui, non, ce sont des interjections. Moi, ça je
j'avais complètement oublié. Ce sont des interjections. La salutation, bonjour, hello, hola, si on est espagnol. L'ordre, stop, arrêtez-vous. L'avertissement, chaud, chaud devant.
Ouais. Stop Covid, donc attention. On utilise une interjection, hein. On est d'accord.
Voilà, stop Covid, c'est une interjection, on dit au Covid de s'arrêter.
Ouais.
Bon, enfin, il n'écoute pas beaucoup, hein.
Non, il n'écoute pas, malheureusement, il n'écoute pas les leçons de grammaire, le Covid-19. Et puis, il y a d'autres cas aussi où on utilise des interjections. On a vu donc l'émotion spontanée, on n'a pas le temps de réfléchir. Aïe, 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 zut, le message au destinateur, oui, non, bonjour. Et puis, il y a d'autres cas.
Oui, on va illustrer par un son plus ou moins ressemblant un événement. Alors, ça s'appelle des onomatopées. Cette fois-ci, le mot vient du grec et veut dire création de mots.
Alors, onomatopées, on va l'appeler onomatopées. Hein. O-N-O-M-A-T-O-P-E-Y-E-S. Onomatopées.
E accent aigu, E-S.
E accent aigu, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça?
E-Y.
Oh pardon, oh là. E accent aigu, E-S. Onomatopée, pardonnez-moi.
Alors, par exemple, c'est un bruit particulier qui est associé à une personne, à un animal, un objet, un événement. Par exemple, une personne. Achoum ! Bah, c'est le cas en ce moment quand on peut éternuer, je crois, quand on a le Covid.
Oui, dans son coude, hein. Dans son coude. Hein, donc, ça, dans son voilà, coude, ça fera moins de bruit.
Voilà. Et puis ça enverra moins de virus. Un cri d'animal.
Eh ben voilà, allez, le coq. Cachez-vous.
Cocorico.
Oui.
Un objet. Une porte qui grince quand on l'ouvre. Un événement. Bang. Pour une explosion. Patan. Pour un tir. Crac. Quand on marche sur une branche. Pchit. Quand on débouche une bouteille de boisson gazeuse. Chut, quand dit le maître ou la maîtresse à ses élèves qui sont trop bavards.
Ouais. Et alors, l'orthographe est en principe assez codifiée pour ces onomatopées. Hein. Cocorico, bon, ça s'écrit comme ça se prononce. Mais parfois, on rajoute des voyelles pour faire durer le crac. On va pouvoir mettre 3 A d'affilée pour vraiment que le crac dure très longtemps. C'est autorisé, ça, Marie-Christine ?
Oui. C'est pour renforcer l'expression de ce qu'on veut dire.
Ouais, comme ça, quand on lit le mot, on entend pratiquement le son dans notre tête finalement.
Voilà, alors c'est ce qu'on retrouve souvent dans les bandes, c'est très utilisé dans les bandes dessinées, hein, les onomatopées.
Alors il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand on écrit une onomatopée, hein, il faut toujours faire suivre l'onomatopée de...
Du point d'exclamation, mais pas simplement, ce sont toutes les interjections qui sont suivies du point d'exclamation.
Toutes les interjections, d'accord. Donc bonjour, merci, etc.
Toutes, voilà. Et après le point d'exclamation, alors c'est un petit trait et en dessous on met un petit point. Donc un petit bâton et en dessous un point. Et quand on reprend le mot suivant après le point d'exclamation, on recommence avec une majuscule.
Et l'onomatopée, tout d'un coup j'ai un doute, c'est un mot du masculin ou du féminin ?
Du féminin.
Voilà.
Et bon. ES.
D'accord, c'est bien ça alors. Très bien, Marie-Christine. Peut-être une petite poésie pour qu'on mémorise bien tous ces petits mots.
5 petits monstres. 5 petits monstres dansent derrière la fenêtre. Le premier fait. Le deuxième fait. Le troisième fait. Le quatrième fait « Le cinquième s'approche de mon oreille et dit « Tu veux être mon ami ?»
Voilà, on a vu comment finalement toutes ces interjections peuvent exprimer la méchanceté, l'étonnement, la peur. l'appel aussi quand on cherche quelqu'un, hein, ou et puis effectivement, voilà, ça donne aussi de la diversité à la façon d'écrire. Finalement, en résumé, Marie-Christine, l'interjection, ça sert pour exprimer une émotion, un message court, un bruit, et je vais bientôt vous dire au revoir, je vais vous dire super, Marie-Christine, ouf, on a tout compris, nous avons tout compris plus exactement, merci, au revoir, chut, les enfants, bientôt, une histoire racontée.
Ouh là là, Emmanuel, vous avez fait comme Bakary, vous avez... Ah non, Bakary, c'était les prépositions. Là, vous avez utilisé énormément d'interjections dans votre phrase.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, je ne m'en rendais pas compte.
Alors, est-ce que les enfants peuvent compter combien il y a d'interjections dans cette phrase, si
alors,
vous la répétez?
Eh ben, je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai dit, Marie-Christine. J'ai dit, alors vous comptez bien les enfants, vous pouvez compter sur vos doigts. Hein. Super, Marie-Christine, super. Ouf, nous avons tout compris. Merci. Au revoir. Chut, les enfants, bientôt une histoire racontée. Alors, combien on a d'interjections différentes? Je vous redis une dernière fois la phrase. Super, Marie-Christine. Ouf, nous avons tout compris. Merci. Au revoir. Chut, les enfants, bientôt une histoire racontée. Vous en avez trouvé combien, vous, Marie-Christine? Vous avez compté
5.
Vous en avez trouvé 5. Eh bien oui, moi aussi. J'espère que vous aussi, les enfants, vous avez trouvé 5 interjections. Donc, et on a bien retenu que les onomatopées font partie des interjections. C'est pas une catégorie encore à part, hein, on est d'accord.
Non, non, non. Alors, moi, je voudrais suggérer que les enfants écrivent la plus longue liste qu'ils peuvent, avec même l'aide de ceux qui sont autour d'eux, une liste des interjections, celles que vous utilisez, celles qui sont utilisées autour de vous. Et puis, vous pourriez nous les adresser avec, pourquoi pas, un ou plusieurs petits dessins pour illustrer ces interjections à la manière de ce qui est utilisé dans les bandes dessinées. Peut-être que certains d'entre vous connaissent la BD ivoirienne Aya de Yapungo.
Ouais, Aya de Yopougon, ouais, très célèbre. Et effectivement, bah, dans toutes ces bandes dessinées, il y a plein d'interjections. Alors, vous n'oubliez pas, vous faites des dessins, vous mettez des dialogues et forcément, vous allez mettre des interjections. Et il y aura d'ailleurs aussi probablement des prépositions parce qu'on en utilise aussi beaucoup quand on écrit. Avant qu'on se quitte, Marie-Christine, cette fois-ci pour de bon, hein, il y aura plus à compter les au revoir. Message de Raphaël au Togo qui demande, le point d'exclamation, est-ce qu'il précise l'interjection?
Oui. Il est obligatoire.
Il est obligatoire, on est d'accord.
Ça permet de bien marquer la différence. Par exemple, je te dis merci.
Oui.
Point.
Alors là, on ne met pas de point d'exclamation.
Et si je dis merci, Emmanuel, là, je mets le point d'exclamation.
Mais alors, quand je te dis merci et qu'il n'y a pas de point d'exclamation, c'est quand même une interjection? Non, ce n'est pas utilisé en tant qu'interjection.
Non, non, ce n'est pas utilisé en tant qu'interjection.
C'est
ça.
Je
te dis merci pour le service que tu m'as rendu.
Voilà.
Donc là, si vous voulez, c'est un nom commun. Hein, je te dis merci, c'est un nom commun dans ce cas-là. Et quand je te dis merci, Emmanuel... Donc là, c'est une interjection.
Et donc, on met bien le point d'exclamation. Et c'est le point d'exclamation qui qualifie le mot d'interjection. Caroline, qui est à Dakar, qui a 10 ans, nous dit « En écoutant la leçon, j'ai tellement envie de retourner à l'école. Patience, ça va bientôt arriver, Caroline. » Marie-Christine, on va se retrouver dans pas longtemps. Vous nous préparez, je sais, des leçons sur la ponctuation à vos demandes, les voisins, les voisines, et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez dans votre cartable là, pour dans quelques jours, Marie-Christine?
J'ai pour terminer la leçon sur les 9 espèces de mots, ou 9 classes de mots, c'est la même chose, les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination.
Oui, bah là, il va falloir prendre des notes aussi pour se rafraîchir la mémoire ou pour découvrir. Alors les enfants, surtout, vous n'oubliez pas d'envoyer vos dessins sur notre compte WhatsApp avec le plus possible d'interjections et même de prépositions. Tout ce que vous utilisez dans la journée, vous les notez sur un petit carnet, sur un petit bout de papier. Et ensuite, vous composez de beaux dessins avec des dialogues. Et vous envoyez tout ça au 33 1 84 22 71 71. On vous souhaite une très belle journée, Marie-Christine. On vous laisse retourner voir votre meilleur ami, le coq Cocorico. Encore une interjection.
Mon collaborateur du jour.
Exactement. Allez, bonne journée au village, Marie-Christine, et à très très bientôt. Dans quelques instants, ce sera une histoire racontée par Héloïse Oria, juste après John Legend, Wake Up Everybody.
Wake up everybody, no more sleeping in bed. No more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Oh yeah.
Wake up all the teachers, time to teach a new way. Then they listen to what you have to say. 'Cause they're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. Oh yeah.
The world won't get no better if we just let it be. Change again, just you and me.
Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the pills.
They
don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away?
« 7 milliards de voisins, l'école à la radio, on ne ferme pas encore les portes, comme chaque jour, vous le savez, une récompense parce que vous avez été très attentifs, les juniors, les moins jeunes, les grands frères, les tantis pour écouter la leçon, pour vous rafraîchir la mémoire ou tout simplement pour découvrir aussi le sens des mots, la fonction des mots en grammaire. Et maintenant, une histoire racontée par Héloïse Oria. « Quoiqu'il la pintade et la perdrie », écrit par André Raponda-Walker. C'est un conte gabonais édité chez Présence Africaine.
Mais peut-être que je vais inventer une histoire.
Il était une fois...
Quoiqui, la pintade et la perdrix. Un conte d'André Raponda-Walker. Un jour que Quoiqui avait posé des lacets dans la forêt, une perdrix et une pintade s'y firent prendre. Lorsque, le jour suivant, Quoiqui alla visiter ses lacets, il trouva les deux oiseaux attachés par la patte. Alors ceux-ci lui dirent « De grâce, remets-nous en liberté !» Ce service que tu nous rendras maintenant en saison sèche, nous te le rendrons plus tard, à la saison des pluies. Sur quoi, Quoiqui les relâcha, et les oiseaux s'envolèrent dans les airs. Or, il advint longtemps après que Kwaki se mit en route pour aller chercher une femme dans un autre village. En cours de route, il eut faim et chercha un endroit convenable pour y prendre son repas. Soudain, à un carrefour, il vit un endroit bien propre. Cet endroit avait été déblayé, nettoyé et aplani par des gnomes. Et ces gnomes défendaient aux passants de s'y arrêter pour manger. Malgré cette défense, Kwaki s'assit là pour prendre son repas. Des têtes de gnomes apparurent aussitôt de tous côtés.
« Qui t'a permis de manger ici ?» lui dirent-ils. « Tu nous le paieras cher !»
Son repas achevé, Kwaki se leva et continua son chemin jusqu'au village, où il épousa une femme et revint avec elle. Au retour, il s'assit encore au même carrefour pour manger. Au même instant, les gnomes accoururent en gambadant et criant à tue-tête.
« Il faut nous payer !
Il faut nous payer !»
Kwaki leur donna des moutons, mais ils les refusèrent. Il leur offrit des esclaves. Ils n'en voulurent pas davantage.
« Donne-nous ta femme !»
lui dirent-ils. « Ah, ça, jamais. Demandez-moi autre chose, mais pas ma femme !» leur répondit-il. Puis il cria tout haut. « N'y a-t-il donc personne dans cette forêt pour prendre ma défense ?»«
Kyo, kyo !»
répondit la perdrix. Et la pintade, pareillement, fit entendre son cri. Et les voilà qui arrivent en vitesse, toutes les deux.
« Qu'y a-t-il, Kwaki ?»
lui demande-t-elle. « Ces gnomes m'empêchent de continuer mon chemin. »«
C'est bien, » dit la perdrix. « Nous allons tâcher de régler cette affaire. Mais quand on parle un palabre, on peut bien se rafraîchir, n'est-ce pas ? Dis donc, toi, le gnome, si tu envoyais ton garçon nous chercher de l'eau à la fontaine ?»
Ce disant, elle attrape une gargoulette et la donne à un des gnomes présents pour aller puiser de l'eau. Le petit bonhomme va donc puiser de l'eau. Mais voyant l'eau passer goutte à goutte à travers la gargoulette, il la pose à terre et se sauve à toutes jambes. On eut beau l'attendre, il ne reparut plus. On envoya donc un deuxième gnome à la recherche du premier. Arrivé à la fontaine, il vit bien la gargoulette, mais pas le garçon. À son tour, il puisa de l'eau avec la gargoulette, mais à la vue de l'eau qui filtrait au dehors, il laissa la gargoulette et s'enfuit comme le premier. Après lui, on envoya un troisième gnome, puis un quatrième et ainsi de suite, pour voir ce qu'étaient devenus les autres. Eux aussi virent bien la gargoulette posée à terre, mais ils ne trouvèrent aucun de leurs camarades. L'un après l'autre, ils prirent la gargoulette pour puiser de l'eau, mais dès qu'ils virent le liquide s'écouler petit à petit par les parois du récipient, ils eurent peur, abandonnèrent la gargoulette et prirent la fuite, comme ceux qui les avaient précédés. Il en fut ainsi du premier au dernier. Les gnomes disparurent tous, les uns après les autres. Quand il n'en resta plus un seul, la perdrix, prenant la parole, dit à Kwaki
« Eh bien, tu vois que je te disais vrai. Si tu nous avais tués, la pintade et moi, au lieu de nous relâcher comme tu l'as fait l'autre jour, qu'en serait-il de toi à l'heure actuelle ? Serais-tu encore en vie ? Allons, prends maintenant ta femme et emmène-la tranquillement chez toi. »
Voilà pourquoi on dit aujourd'hui, en manière de proverbe, « Si tu vois ton prochain dans le besoin, rends-lui service. » Car un jour, tu pourras peut-être avoir besoin de lui, comme il arriva à Kwaki, avec la perdrix et la pintade.
Kwaki, la pintade et la perdrix, à la mise en onde, Romain Dubrac.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Et avec Sylvia Serbin, on est ensemble aussi chaque semaine. On découvre avec vous, Sylvia, une femme, une héroïne mal connue de l'histoire du continent africain ou de la diaspora ou des diasporas noires. Bonjour Sylvia Serbin.
Bonjour Emmanuel et à tous les auditeurs.
Sylvia, aujourd'hui, nous sommes au temps de l'esclavage dans les Antilles du début du 19e siècle. Alors, qui était celle que l'on appelait la mulâtresse Solitude ?
Alors, la mulâtresse Solitude, c'est une jeune femme de 30 ans. Elle était enceinte et elle avait rejoint une insurrection contre le rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises qui avait été décidée par Napoléon Bonaparte lorsqu'il a pris le pouvoir en France. Alors, ça a commencé le 29 novembre 1802, donc à la Guadeloupe. Et donc, cette jeune femme a été prise parmi les insurgés. Et la veille, elle a été condamnée à la pendaison et la veille, elle avait accouché d'un enfant qui lui a été aussitôt enlevé pour s'ajouter au bien d'un propriétaire d'esclaves.
Mmh. Donc la mulâtresse Solitude, elle a mal terminé sa vie puisqu'elle a été donc pendue. L'esclavage avait pourtant été aboli après la Révolution française de 1789.
Exactement. Donc avec ces idéaux de liberté et d'égalité, donc il y a eu une première abolition par la France en 1794. Et ces mesures avaient concerné d'ailleurs principalement Saint-Domingue, Haïti d'aujourd'hui, et la Guadeloupe, qui avaient déjà connu pas mal de révoltes d'esclaves. Mais les propriétaires blancs qui contrôlaient les économies locales étaient furieux, car la libération des Noirs venait désorganiser la production sucrière qui faisait leur fortune. Et en Guadeloupe, on comptait à l'époque environ 100 000 esclaves pour 14 000 blancs qui occupaient le sommet de la pyramide.
Oui, on comprend bien effectivement pourquoi ils ne voulaient pas l'abolition de l'esclavage. Les Noirs qui étaient devenus des citoyens français, donc à l'époque, refusent de travailler dans les mêmes conditions après
160 ans de tyrannie. Ouais, évidemment, ouais. La situation ne peut plus perdurer. Alors beaucoup d'entre eux, des anciens esclaves, vont s'éloigner des plantations, ils vont aller dans des petits centres urbanisés et tout ce qu'ils avaient comme savoir deviendront leur métier, boulanger, charpentier, vendeur ambulant, et puis les femmes couturières, soigneuses, accoucheuses, petites commerçantes ou domestiques. Et la main-d'œuvre agricole, elle aussi, elle veut être rétribuée pour continuer à travailler sur les exploitations. Et puis d'autres vont s'engager dans l'armée révolutionnaire qui venait d'être créée par la France en Guadeloupe. Il y a même certains Noirs instruits qui deviennent instituteurs. Malheureusement, cette période de liberté ne va durer que 8 ans.
Oui. Et ensuite, que va-t-il se passer? Alors, Napoléon Bonaparte...
Lorsque Bonaparte prend le pouvoir en 1799, il va tomber amoureux d'une fille de planteur de la Martinique qu'il épouse, Joséphine de Beauharnais, et bien entendu, elle va plaider pour son clan. Et en 1802, Napoléon décide de rétablir l'esclavage dans les colonies françaises. Alors, depuis Paris, il envoie une flotte armée de 10 bâtiments qui va débarquer près de 4000 hommes à Pointe-à-Pitre le 4 mai 1802, avec pour mission de remettre tous les nègres dans les fers de l'esclavage.
Oui.
Et c'est là que va éclater la sanglante résistance du 10 mai 1802. D'ailleurs, c'est un anniversaire, hier l'anniversaire. Mmh. Voilà.
Et alors, notre héroïne Solitude dans tout cela, alors qu'est-ce qu'elle va faire pendant cette résistance?
Oui, alors Solitude, il faut dire qu'elle fait partie de ces personnages anonymes qui ont traversé l'histoire pour s'être sacrifiée dans la défense d'une cause, mais sans occuper le devant de la scène. Alors, on sait peu de choses de sa vie d'esclave, mais selon les traditions orales, lors de la première abolition de 1794, elle avait choisi de vivre dans la clandestinité et elle avait rejoint un camp de nègres marrons. Et c'est le nom qu'on donnait aux esclaves fugitifs qui se construisaient des communautés dans des endroits très isolés, dans des montagnes, très loin des villes.
Mmh, ou alors parfois dans des marécages, oui. Mmh.
Voilà, c'est ça. Et la première source écrite qui mentionne le personnage de Solitude, donc qui a été publiée en 1858, relève surtout sa virulence parce qu'elle était une meneuse d'un groupe de résistants lors de cette révolte de 1802. Et ça surprenait de voir qu'une femme faisait partie de meneurs d'hommes, enfin, dans cet univers d'oppression. Mais il faut savoir que partout dans le monde où des Africains ont été déportés par le système esclavagiste, il y a eu beaucoup de femmes qui ont participé au soulèvement d'esclaves et donc qui se sont battues face aux armées qui défendaient les intérêts esclavagistes. Et Solitude symbolise un peu toutes ces esclaves qui ont participé à ces luttes.
Mmh.
Alors, ce que je peux ajouter, c'est que la résistance même de la Guadeloupe sera lancée par un gradé antillais de l'armée locale, le colonel Louis Delgrès, qui a 36 ans, intellectuel, pétri d'idées humanistes. Et ce métis originaire de la Martinique, qui fait partie donc de l'armée française, est outré du retournement de la France contre ses citoyens noirs. Il rédige un appel à l'insurrection qui sera placardé dans toutes les communes proches du sud de la Guadeloupe. Et le bouche à oreille va se répercuter. Et aussitôt, dans toutes les campagnes et dans toutes les plantations, des ouvriers, des pères de famille, des mères, des adolescents s'arment de gourdins, de piques, de coutelas, de tout ce qu'ils peuvent pour rejoindre la cohorte des résistants qui sont venus s'engager aux côtés de Delgrès et de ses soldats.
Le mot d'ordre, c'est « préférons la mort à l'esclavage, voilà. Vivre libre ou mourir voilà, ». Et Solitude va suivre ce mot d'ordre et donc se battre aux côtés de la résistance.
Voilà, dès qu'elle entend cette information, Solitude, qui est à Pointe-à-Pitre, va marcher toute la nuit pour rejoindre le front des insurgés, prêt à livrer bataille contre le corps expéditionnaire de Napoléon, et elle a un pistolet à la main. Et le 28 mai 1802, dans l'après-midi, vers 15h, donc l'assaut est donné, et le dernier carré de résistance est réfugié avec Delgrès dans une espèce de manoir fortifié qui a été miné avec des barils de poudre. Et dès que les soldats français approchent de cette demeure, donc il y a une explosion effroyable qui retentit et donc beaucoup de victimes dans cette explosion, tant du côté français que du côté antillais. Et Solitude est blessée, elle a miraculeusement survécu à cette hécatombe avec une poignée de résistants. Et comme elle est enceinte, sa grossesse lui évite d'être condamnée immédiatement.
Mmh. Alors effectivement, alors quand vous dites du côté français, c'est l'armée napoléonienne hein, en fait,
oui,
qui
sûr,
se bat, voilà, qui se bat contre les Antillais français, qui sont tout aussi français
voilà,
d'ailleurs, mais
oui.
Que l'on veut remettre sous le joug de l'esclavage. C'est vraiment
oui.
une répression qui va être très brutale, et du coup, Solitude va se retrouver arrêtée, c'est ça?
Oui, alors là, il y a une répression terrible qui va s'abattre sur la population noire de la Guadeloupe. Tous ceux qui ont sympathisé avec la rébellion, qui ont refusé de reprendre leurs conditions d'esclaves, sont impitoyablement exécutés, fusillés sur les plages ou jetés vivants dans des bûchers en place publique. On estime à environ 10 000 le nombre de victimes de l'insurrection et de la répression. Et la moitié de ces gens qui ont été condamnés, qui ont été massacrés, étaient des femmes. C'est pour vous dire l'importance et la présence des femmes dans cette résistance. Et le 29 novembre, donc, c'est au tour de la mulâtresse Solitude de monter sur l'échafaud. Elle qui s'était battue pour la liberté va laisser un nouveau-né à l'esclavage.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier hein, que quand elle s'engage, hein,
elle est enceinte
voilà. de 3 mois. Hein, quand
voilà,
elle va rejoindre Pointe-à-Pitre jusqu'à Basse-Terre en marchant toute la nuit avec son pistolet, elle est enceinte de 3 mois. C'est
voilà.
quand même un sacré bout de femme. Ouais.
Voilà. Et puis, en conclusion, on va dire qu'il y a une deuxième abolition avec toutes ces révoltes, parce que ça va laisser un mouvement d'opinion quand même important, tous ces massacres de la période napoléonienne. Et une deuxième abolition va intervenir en 1848, donc sous un autre régime français.
Ouais, c'est-à-dire presque un demi-siècle plus tard, finalement.
Voilà.
Et ce qui ne va pas empêcher Solitude d'être condamnée à mort et pendue. Merci beaucoup, Sylvia Serbin. Il faut préciser qu'on peut retrouver toutes ces histoires évidemment très documenté que vous avez publié Reine d'Afrique et héroïne des diasporas noires aux éditions Medu Netter. Merci, à très bientôt Sylvia, à lundi prochain d'ailleurs très précisément. Merci à vous.
Merci.
Demain, suite de l'école à la radio avec Gérard Sansfaute, on va fabriquer un dé à jouer pour le jeu du banquier, l'occasion de faire du calcul et de la géométrie. Et bien sûr, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.